Merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis vraiment de passer ce temps de culte et de célébration avec vous ce matin. Donc, on m'a demandé de me présenter encore un peu plus. Donc, je viens d'Allemagne. Ça fait 18 ans que je suis en francophonie, dans 12 ans en Belgique. Je suis mariée à Léo, qui vient de Suisse. Nous avons deux enfants et je travaille en effet comme pasteur dans une église de l'association à Bruxelles, et après nos gens, je suis encore passée, comme toi, à la fac de Vaux-sur-Seine. En Belgique, nous sommes aussi engagés dans un endroit de retraite et de quiétude, un endroit où on peut venir pour se reposer, pour faire une retraite spirituelle. Les Misotis, ça a vraiment aussi une place importante dans notre vie, une spiritualité lente et contemplative. Et j'aime beaucoup l'écriture, bien sûr, la parole de Dieu, mais l'écriture, le fait d'écrire. J'écris beaucoup de poèmes, et à la fin de la prédication, vous allez le voir, la conclusion de la prédication sera en forme poétique. Mais on va commencer par le commencement. Cultiver la joie dans une culture de l'insatisfaction. Cultiver la joie dans une culture de l'insatisfaction. Certains parmi nous ont peut-être vu l'année passée le film Vice Versa 2 ou le premier film Vice Versa en 2015. Qui l'a vu ? Oui, quand même beaucoup. Où nous entrons dans ce film, nous entrons dans les méandres relationnels, émotionnels de Riley, d'abord enfant, dans ce deuxième film, elle est adolescente, avec cette hypothèse qu'il y a une émotion prédominante en chacun de nous. La joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur. Quand je regardais ce film, je me suis dit que la joie n'est probablement pas l'émotion qui est naturellement prédominante en moi. Mais j'apprends que la joie peut se cultiver, comme tout autre fruit de l'esprit. Comme toute autre valeur du royaume de Dieu, la joie peut naître en nous et grandir en nous à tout moment. Non pas en niant ce qui est plus difficile dans une vie, les épreuves, les douleurs, les pertes, mais au milieu de tout cela. Comme toute autre valeur du royaume de Dieu, comme la paix, la patience, la fidélité, la joie est comme un muscle que nous pouvons entraîner consciemment avec l'aide de l'Esprit-Saint. Mais en même temps, c'est aussi un cadeau à recevoir. Un cadeau, non pas dans le sens que nous allons le garder pour nous, notre cadeau, non pas dans le sens de possession, mais dans le sens de don, à tenir entre des mains ouvertes et pour en jouir d'abord nous et ensuite pour le passer plus loin. Dans le titre de la prédication, il y a question de cultiver. C'est un verbe que j'aime énormément, qui nous parle de terre, de sol, d'être enraciné. Et dans les sols dans lesquels pousse la joie ne sont pas pareils. Mon sol est différent de celui de mon mari, et je le remarque depuis 12 ans, tous les jours. Le sol de mon mari est différent du sol de chacun de vous. Mais à chacun, chacune, une invitation est donnée, et c'est de cultiver la joie, de faire ce travail de jardinage ensemble avec le jardinier par excellence qui est notre Dieu, qui est plein de grâce. Cultiver la joie dans une culture de l'insatisfaction. Mais l'insatisfaction, d'où vient-elle ? Elle a existé à toutes les époques depuis que l'humanité a prêté l'oreille à la voix du serpent. Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Si vous m'écoutez, vous aurez plus, mieux » Mettons le doute dans notre esprit et détournons nos yeux de tout ce que Dieu avait mis de bon dans cette création, dans nos vies. On a commencé à voir le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Je suis vraiment une spécialiste de cela. Et aujourd'hui, je pense, il y a un autre élément qui s'ajoute à cela à notre époque, qui n'existait pas dans le temps, c'est la publicité. Elle va jouer sur notre désir et nous donner envie de choses que nous connaissions peut-être même pas avant, nous ne savons même pas que ça existait, et tout d'un coup, on voit une affiche et on a envie de ça. Il y a les réseaux sociaux qui ajoutent une couche à cela avec toute une mise en scène d'une vie qui n'existe pas vraiment, comme chante le chanteur Benabar dans une chanson qui s'appelle « Mascarade », le 26e selfie est le plus spontané. Il est vrai que de nos jours, l'insatisfaction semble être en augmentation. Et comment pouvons-nous aller davantage du côté de la joie et quitter un petit peu plus le terrain de l'insatisfaction ? C'est le psaume 63 qui va nous guider dans notre cheminement de l'insensibilisation vers la joie. Et c'est Magali qui va lire ce texte pour nous.
Psaume 63, psaume de David, il fait allusion au séjour de David dans le désert de Juda. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie, je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Et tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin qu'ils en soient fiers, car les menteurs seront réduits au silence.
Merci beaucoup. Cultiver la joie avec quatre outils de jardinage. Cultiver la joie, premièrement, par le souvenir de Dieu. Quand il écrit ce psaume, David est dans une situation plus qu'inconfortable, qui pourrait provoquer beaucoup d'insatisfaction en lui. Son unique chez-soi, une grotte quelque part dans le désert de Juda, entourée de collines calcaires, terre aride, crevassée, lieu de tous les dangers. Il y a des gens qui veulent sa mort. David est poursuivi depuis de longs mois déjà par le roi Saül et son armée qui le traque de cachette en cachette. Son intense soif physique, il est dans un désert, est en miroir à la soif de son âme, à son cri de cœur, son cœur qui crie famine. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Mais étonnamment, dans cette situation plus que difficile, il est question de joie dans ce psaume, dans ce court psaume de 12 versets. Il est question de joie à 3 reprises. Parfois, on a distingué entre différents types de joie. Le théologien Louis Schweitzer distingue, par exemple, à cette distinction. Il parle premièrement d'une joie initiale, celle de la rencontre avec Dieu, de la conscience du pardon. Joie première, bouleversante, vient ensuite, écrit-il, la joie de la communion avec Dieu, joie de sa présence, de la certitude de son amour. Le psaume 63 parle de cette joie de communion. Dieu, tu es mon Dieu. Dans le temple, j'ai été contemplé, j'ai vu ta puissance, ta présence glorieuse. Dans le passé, David a connu cette joie de la communion et il voudra encore y goûter. Je te cherche, tout mon être soupire. Cette présence, la bonté de Dieu, lui sont plus précieuses que la vie elle-même. Mais dans la situation présente, David a soif. Mais cette soif ne semble pas exclure la joie. Oui, tu es venu à mon secours, à l'abri de tes ailes, je crie de joie. Tu es venu à mon secours. Dieu est venu à notre secours aussi. C'est un élément vraiment très très important dans notre joie. La plus grande source de notre joie est l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Sa venue parmi nous, Dieu lui-même parmi nous, avec nous, entrant dans notre condition humaine, restant avec nous. Jésus-Christ qui nous montre le visage du Père et nous allons tout à l'heure prendre le repas du Seigneur pour nous en souvenir. Jésus-Christ mort à la croix à cause de nos égarements et ressuscité le troisième jour. Jésus qui nous fait goûter à la joie de communion, communion avec Dieu le Père, créateur de l'univers. Et ce souvenir-là peut vraiment nourrir notre joie. Encore une citation de Louis Schweitzer, la joie chrétienne passe parce que les pères de l'Église, c'est les premiers théologiens, les plus connus des premiers siècles de l'Église, c'est parce que les pères de l'Église appellent le souvenir de Dieu et la garde du cœur. La joie, comme la louange, se nourrissent de la mémoire des grands actes de Dieu dont nous sommes les bénéficiaires et de l'attention sans cesse renouvelée à sa présence avec nous, en nous. Cultiver la joie par le souvenir, on a fait aussi ça dans les chants, ça fait partie de ce que nous faisons chaque dimanche dans les cultes, par des lectures bibliques, par les chants, par l'écoute de la prédication, par des témoignages aussi. C'est vraiment un aspect qu'on a développé dans notre communauté depuis un an et c'est vraiment très très encourageant, ça peut nourrir notre joie de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans le manque qu'il ressent dans sa situation présente, David cultive donc la joie par le souvenir de Dieu et aussi en se donnant la liberté d'exprimer toutes les émotions devant Dieu. C'est cela la garde du cœur. Exprimer toutes nos émotions devant Dieu. Ça peut nous aider à vivre la joie au milieu des circonstances inconfortables et difficiles. Dans ce psaume, il y a l'épuisement et la colère de David qui sont palpables et dans son dépouillement extrême, ils les déposent devant Dieu avec toute leur dureté. C'est peut-être des versets qui vous ont fait un peu sursauter à la lecture que Magali nous a fait. Il y a des gens qui veulent à ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Des paroles que nous pourrions être tentés de gommer. Parfois, on lit des psaumes au culte et on a la liberté de faire ça, mais on se dit, bon, je vais lire la partie qui parle de joie, de louange, et ces parties-là, je les mets de côté. Elles nous gênent et elles nous interpellent par leur violence. Mais à bien y regarder, il y a une fonction libératrice dans ces paroles. La colère et la peur de David ont besoin de trouver un exutoire. C'est un trop-plein qui trouve son chemin hors de son cœur, hors de son corps. La violence dont il est objet depuis des longs mois déjà a laissé des traces dans son âme. Quelque chose se déplaçait en lui. Et pour pouvoir se recentrer, pour revenir sur le chemin de la joie, tout ce qui s'est accumulé en David a besoin d'être exprimé devant Dieu. Quelle que soit la manière dont nous exprimons nos ras-le-bol, nos colères, nos « je n'en peux plus », peut-être en les exprimant à voix haute, à Dieu, peut-être en faisant promenade là où il n'y a personne, en les écrivant dans un cahier, en parlant à un ami, à une personne de confiance. Quelles que soient ces manières, exprimer notre colère est importante. Il est difficile de cultiver la joie si nous gardons des colères, même des colères justifiées, dans notre cœur. La colère a sa place, la colère a son importance quand nous sommes face à des situations d'injustice. Mais si la colère s'installe en nous dans la durée, on n'aura plus de place pour la joie. Il y a à peu près 10 ans, je priais pour plus de joie dans ma vie. Mais c'est seulement assez récemment que je peux dire que Dieu a exaucé ma prière. Me faisant passer par un long, long chemin de guérison des blessures du passé et d'expression aussi de la colère, je ne me rendais pas compte qu'une part de moi était en colère. Cette colère a besoin d'être exprimée pour que la joie trouve sa place. C'est un encouragement pour nous de persévérer quand on a prié et des années, on ne voit pas que quelque chose bouge. Bah, un jour, nous avons cet espoir que Dieu interviendra. C'est d'ailleurs très parlant que David enchaîne avec la joie une fois qu'il a tout déversé, que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Après avoir exprimé sa colère, c'est ainsi que je l'interprète, il fait 2 choses. D'abord, il prie pour Saül, celui qui, rongé par des remords et par une jalousie maladive, le poursuit. Il prie pour lui, qu'il puisse abandonner ce chemin de mort sur lequel il s'est engagé et retourner sur un chemin de vie, revenir vers la joie. Et ensuite, la prière de David se tourne vers l'avenir. Il prie pour lui-même, pour ce moment où il sera roi, qu'il reste à ce moment-là, qui sera peut-être moins difficile, qu'il reste sur ce chemin de vie, sur ce chemin où il cultive la joie, qu'il continue à vivre de la présence de Dieu, à puiser en lui sa joie. Cultiver la joie par le souvenir de Dieu. Cultiver la joie par la garde du cœur en déversant nos émotions, toutes nos émotions devant Dieu. Et aussi cultiver la joie en nous ouvrant à ce qui vient, comme David le fait aussi ici. Que le roi trouve en Dieu sa joie, la source de sa joie. Dans la joie, il n'y a pas seulement cette dimension du passé, parce que Dieu a fait, mais aussi une dimension future, le regard vers ce qui est en train d'advenir. En allemand, il y a un terme pour cela qui n'existe pas comme ça en allemand, c'est le mot Vorfreude, qu'on pourrait traduire par une joie anticipée, une jouissance à l'avance que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Pas toujours facile. Je proclamerai ta louange, je serai comblée comme rassasiée des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai. Dans cette situation de manque, David cultive la joie en méditant sur l'aide que Dieu lui a accordée, mais aussi en regardant vers l'avant. Je serai encore une fois comblée, je laisserai éclater ma joie. Et je pense que pour nous aussi, cette ouverture à ce qui vient, cette ouverture au royaume de Dieu qui vient, dont Jésus dit qu'il est tout proche, nourrit notre joie. Ce royaume, ce n'est pas une institution, il est d'une certaine manière insaisissable, mais Jésus nous invite à le rechercher. Et nous pouvons nous entraîner à voir les traces de ce royaume en nous, autour de nous aussi. Ce royaume a ses propres valeurs, pas toujours aligné avec ce qui se construit dans notre société. Ce royaume plonge ses racines dans la croix, dans la résurrection, qui porte en lui les prémices d'un monde renouvelé qui commence déjà maintenant. En effet, l'espérance et la joie vont ensemble. Nous savons que les expériences du désert que nous vivons dans cette vie ne dureront pas toujours. Oui, je pense qu'il y a des fragilités des déserts qui sont là pour une saison de notre vie. Il y a d'autres déserts, fragilités, qui resteront peut-être dans notre vie jusqu'au bout. Mais nous cultivons une espérance qu'un jour, tout sera restauré. Nous savons que Christ reviendra pour rétablir toutes choses, pour faire toutes choses nouvelles. Il est déjà en train de le faire, d'y œuvrer. Et j'aime bien m'imaginer la joie comme une tisseuse qui tisse une couverture bien chaude avec 3 fils, la foi, l'espérance et l'amour. C'est vrai qu'on a plutôt chaud, mais on garde cette image peut-être pour l'hiver, la joie qui est une tisseuse, qui tisse avec les fils de la joie et de la foi, de l'espérance et de l'amour. Dans un des livres, un écrivain qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Christian Bobin, il écrit une lettre d'amour à ce qui est inespéré. Il écrit « Même dans ces heures-là, les heures sombres où il semble perdre toute joie, même dans ces heures-là, je ne te perds pas complètement. Tu es mon amour, la joie qui me reste quand j'ai plus de joie. » L'inespéré est la joie qui nous reste quand nous n'avons plus de joie. Fruit de l'esprit, la joie est don de Dieu, écrit Louis Schweitzer, mais elle se reçoit et se vit dans l'expérience et l'approfondissement de la vie chrétienne, dans la triple dimension de foi, d'espérance, d'amour. La foi, parce que la joie est liée à la confiance fondamentale dans le Dieu d'amour et en sa grâce pour nous en Jésus-Christ. L'espérance, car la joie repose sur la promesse et la certitude que tout finira bien lorsque Dieu sera tout en tous. Et cela, quels que soient les méandres actuels de la vie et de l'histoire. L'amour enfin, car aimer, c'est agir comme le Père et avec lui, et cet amour est indissociable, la communion avec Dieu. Comme la joie et l'espérance sont liées, la joie et l'amour sont liées. Quelle joie quand nous pouvons expérimenter l'amour des uns, les uns envers les autres, et puiser notre joie dans l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui est tellement grand que nous ne le comprenons pas complètement ici-bas. Un écrivain et un grand penseur chrétien qui a beaucoup réfléchi sur la joie, c'est C.S. Lewis, qui a décrit la joie comme un désir insatisfait qui est lui-même plus désirable qu'aucune autre satisfaction. Un désir insatisfait qui est lui-même plus désirable qu'aucune autre satisfaction. Oui, il y a quelque chose dans la joie, dans les joies que nous pouvons expérimenter sur cette terre qui nous donne soif de plus, qui est comme un indice qu'il y a autre chose à venir encore, que notre soif de joie ne sera seulement assouvie quand nous serons auprès de Dieu pleinement dans sa présence. Et en attendant, ce sera le dernier outil de jardinage pour aujourd'hui, nous cultivons la joie aussi en nous ouvrant aux petites joies du quotidien. La joie se nourrit de ce que Dieu a fait dans le passé, le souvenir de Dieu. Elle se nourrit d'espérance de ce que Dieu fera encore, mais elle est aussi ancrée dans l'ici et maintenant, dans la vie de tous les jours. L'année passée, j'ai écrit un poème à la joie où j'évoque tous ces moments au quotidien où une joie naît en moi. Un thé à la bonne température, des repas simples savoureux, les bras d'un ami tel un tronc d'arbre sous la pluie, l'ajout d'un bébé, les questions de l'enfant, du gâteau à la rhubarbe sur une grande plaque à l'allemande, un coquelicot ou deux, un stylo qui écrit bien. La joie peut davantage nous rejoindre quand nous savourons ces instants simples, quotidiens, quand nous ralentissons nos pas, quand nous ouvrons nos cœurs au lieu de courir vers l'efficacité. Tel un muscle qui réagit mieux quand nous l'entraînons, notre cœur s'ouvre au fur et à mesure quand nous faisons le choix de la joie. Et l'Ecclésiaste, ce livre dans la Bible, nous y encourage déjà. C'est pourquoi je fais l'éloge de la joie, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Quel que soit notre sol, nous sommes invités, non pas à languir après une joie inexistante, mais à nous ouvrir à celle qui est déjà là dans notre vie, à nous ouvrir à toutes ces beautés, ces merveilles qui sont cachées dans notre quotidien, à nous ouvrir à la joie qui peut être là au milieu de ce qui est difficile. La joie n'exclut pas que nous ressentons aussi des manques, parfois fortement, mais c'est une joie qui est réelle malgré tout, qui nous invite à lui laisser de la place en nous, aujourd'hui. Cultiver la joie par le souvenir de Dieu, cultiver la joie par la garde du cœur en exprimant toutes nos émotions devant Dieu, en nous ouvrant à ce qui vient et en nous ouvrant aussi aux joies du quotidien. Je vais conclure par une prière qui est aussi un poème. Cette ouverture au creux de mon être, un espace inespéré. Ta puissance chaude, couleur de printemps et d'arrière-saison. Joie sur le point de naître, plus tendrement forte que mes troubles. Ta main qui touche un bout de ce monde pour faire revivre encore. Ainsi en grandissant, quand ton âme rejoint la mienne. Tu y sèmes tes cadeaux, les graines de ton royaume, une par une, telle une perle précieuse. Amen.